Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonsoir. Les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Alors nous allons avoir la joie de ce soir d'accueillir ici, par l'intermédiaire de liaison téléphonique, Claude Faber, qui va nous parler de son œuvre. En attendant, nous allons vous présenter juste un livre ce soir, de manière à laisser le maximum de temps à Claude Faber. Un livre qui me semble être très important. Il s'agit d'un livre publié par les éditions Po et Psy, des éditions RS, qui sont des éditions toulousaines, qui sont à Toulouse. Po et Psy, qui est dirigé par Daniel Faujoras et Pascal Jeannot, qui sont dans le Gard et qui réalisent encore là une édition d'un ouvrage qui est vraiment très important dans la connaissance de la poésie contemporaine mondiale, puisqu'il s'agit d'un livre de Urs Jaeggi, qui est un poète allemand, donc de la Suisse alémanique, qui est né à Soleure, Urs Jaeggi, en 1931, et qui vit actuellement entre Berlin et Mexico. Il est novelliste, il est essayiste, il est poète, bien sûr, et il est également plasticien. Il y a donc dans cette publication, qui s'appelle Folie Sophie en un seul mot, il y a donc également des encres commis par Urs Jaeggi, puisque donc ce poète est aussi plasticien. De 1964 à 1993, Urs Jaeggi a enseigné la sociologie, la philosophie sociale à Berne, à Bochum, à New York et à Berlin. Et ses nombreux textes narratifs, ses essais, ses ouvrages scientifiques sont inventoriés sur le site www.literaturepor, alors littérature avec un seul T et pas deux après tur, literaturepor, qui se tient un point de tiré Urs Jaeggi. Nous mettrons évidemment toutes ces coordonnées sur notre site lespoètes.site. Il présente son travail artistique dans des expositions individuelles et collectives, et ceci depuis 1985. Alors ce texte, donc l'ensemble de ce texte, Folie Sophie, a été traduit par Alain Jadot, lui né en 1947, il vit à Berlin depuis 1967, il est traducteur, auteur, performeur. Il a traduit de l'allemand vers le français des textes de prose et de poésie, de l'allemand vers le français, Ernst Jandl, dont nous avons fait une émission sur cette œuvre-là, Pretnitz, excusez mon accent, et du français vers l'allemand, il a par exemple Luc Parent, Verhegen, Prigent, tout ça ont été traduits également du français vers l'allemand par Alain Jadot. Alors, qu'est-ce que ce livre Folie Sophie? C'est un livre très intéressant puisque ce volume, c'est un gros volume, hein, c'est un livre, il y a 704 pages, hein, c'est pour vous dire, un très gros volume, en format de poche, comme toujours, disons comme la plupart des temps, par ces éditions Poepsi. Ce volume présente, en édition bilingue, c'est-à-dire il y a allemand et français, l'intégralité de l'œuvre poétique de Urs Jaeggi. Il faut dire que les éditions Poepsi avaient fait la même chose pour Federico Garcia Lorca avec Polisseur d'étoiles. Donc bravo à ces éditions qui nous permettent d'avoir dans un minimum d'encombrement l'ensemble de l'œuvre poétique d'un grand auteur. Donc Urs Jaeggi, écrivain, plasticien et poète d'origine suisse-allemande, comme j'ai déjà dit, qui vit toujours entre Mexico et Berlin. Il est né en 1931. L'auteur, par ailleurs essayiste et ancien enseignant en sociologie et philosophie sociale, exprime dans ce livre-là son souci de l'état du monde. Vous voyez combien, en définitive, la philosophie et la poésie sont, comment dirais-je, des alliés, des parentes, et ont comme préoccupation commune quand même cet état du monde. Convaincu, Urs Jegi, que la critique sociale ne peut se manifester qu'à travers un travail sur la langue, il s'emploie à jouer de toutes les possibilités de celle-ci par un travail de construction, déconstruction, qui puise dans son fond propre, fond qui est bien entendu subjectif, fond qui est constitué de mots, de réflexions, de souvenirs, mais aussi dans le fond dialectal alémanique. La collision de ces matériaux hétérogènes produit des effets d'une très grande force et parvient ainsi à mettre au jour des vérités que les discours convenus sont impuissants à rendre quand ils ne s'efforcent pas de les camoufler ou détourner. Voilà. Alors on pourra y voir pas mal de, comment dirais-je, d'allusions à notre époque. Entre le discours politicien et la pensée des poètes et des philosophes. Un texte de Urs Jegi, actuellement. Tout est vendu, survendu, invendu, revendu. Une minorité ayant trop. Une majorité croissante ayant peu, tous tournent en rond, toujours plus vite, au point mort. Voilà, je crois que ce court poème résume quand même d'une façon assez violente, mais certainement vraie, notre situation actuelle. Je rappelle, Urs Jegi, JAE2GI, Folie Sophie, version française d'Alain Jadot, aux éditions Poepsy, et cela vous coûtera 25 euros. Claude Faber, maintenant, bonsoir. Bonsoir Claude, merci beaucoup d'être avec nous sur Radio Occitanie. Claude
Merci à vous.
habite un très beau pays hein, pour vendre. Il nous fait
C'est
rêver.
beau, ouais, c'est vrai.
Alors, Claude Faber, il est l'auteur donc de plusieurs recueils de poésie, dont Des feuilles de menthe, Les temps des roseaux, La mer du vent, tout ça édité chez Encre Vive, nous en parlerons dans un instant. Le vent pour virgule aux éditions Silleps, ou encore À ciel ouvert aux éditions Mon petit éditeur. Claude Faber est aussi l'auteur de biographies, d'essais et de fictions, dont Armand Gatti, La poésie de l'étoile, aux éditions Descartes et compagnie, à lire absolument. L'anarchie, une histoire de révolte, aux éditions Milan. Achille de Viadieu, D'ombre et de courage, aux éditions Privas. Tous les Toulousains doivent avoir lu Achille de Viadieu de Claude Faber. Ça fait partie de notre patrimoine. Et il n'y a pas tellement d'ouvrages sur ces personnages de la résistance, sur cette période de l'histoire. Il y a également notre ami Paul Arrighi qui a commis un livre aussi sur Silvio Trentin. Mais à mon avis, le Achille de Viadieu et le Silvio Trentin sont les plus grands livres qu'on puisse lire sur cette période. Et qui est écrit, c'est de l'histoire, mais c'est écrit, c'est un ouvrage d'écrivain. Ou encore Les contes de route et de déroute, aux éditions Mon petit éditeur, qui ont été adaptés et interprétés au théâtre. Claude Faber collabore régulièrement avec des musiciens, des comédiens, des photographes, des vidéastes, des plasticiens, des graphistes. Alors, dont une tatoueuse, et bien sûr d'autres auteurs. Alors, qu'est-ce que l'on peut. Il y a une liste assez longue des recueils que vous trouverez. Nous ferons un compte rendu évidemment de cette émission et vous trouverez l'ensemble de ces publications sur notre site lespoètes.site. Donc on peut peut-être donner les titres des derniers recueils. Quels sont les derniers recueils, Claude?
Il y a La clarté du silence. C'était édité aux éditions Raphaël de Surtis chez Paul Sandard, hein, qui
Oui.
est un bel éditeur et
Oui.
un bel auteur.
Oui, qui est à Cour de Sourcière.
Voilà. Voilà, exactement, Accord de Sourcière. En plus, qui réalise, qui non seulement est un bel éditeur, parce que il réalise aussi, je dirais, lui-même, presque de façon un peu artisanale, les recueils. Et très franchement, que ce soit dans le choix des papiers, dans
Absolument, oui. Oui,
la maquette,
oui.
etc.,
Oui.
ça constitue à chaque fois des très beaux objets.
C'est vrai.
D'ailleurs, je le vois, parce que même lorsque j'ai le plaisir d'offrir La clarté du silence à des personnes, avant même qu'ils l'aient lu, ils apprécient déjà l'objet parce qu'ils le trouvent très beau. Donc vraiment, Paul fait un très très beau travail. Donc en effet, il y a eu La clarté du silence. Il y a eu aux éditions Man Production un petit format carré qui
Oui.
s'appelle Calligraphie. C'est une dame voilà, qui s'appelle Françoise Michaud, qui est calligraphe, que je ne connaissais pas, et qui en fait a croisé mes textes et qui a eu envie de les adapter sous forme de calligraphie. Et très honnêtement, c'est pas parce que j'étais intéressé à mes textes, mais j'ai trouvé son travail absolument génial. C'est très 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 beau. Ce sont des petits formats et ça a du coup aussi donné l'envie à un éditeur qui est sur Paris, hein, qui s'appelle Man Production, de sortir ce petit catalogue où on retrouve les calligraphies de Françoise et on y a associé mes textes. Donc c'était des textes qui étaient tirés, n'ont pas été écrits spécialement pour calligraphie, mais qui étaient extraits principalement d'une exposition que j'avais montée avec une sculptrice et un musicien qui s'appelle De terre et de chair nous sommes, et d'un autre recueil qui a été édité aussi chez Ancreville, donc chez l'ami Michel Cozem, qui s'intitule Nos reflets dans les arbres. Voilà. Puis aussi, si je dois citer juste une dernière chose, c'est un livre donc qui accompagne des photos qui s'intitule C'est l'ombre qui dit. Voilà.
Alors, on va commencer, si tu le veux bien, pour
Allez.
écouter un petit peu la voix de Claude Faber. On va commencer tout de suite par un extrait d'un livre que tu n'as pas cité, qui s'appelle De chair et De terre, pardon, et De chair, nous sommes, sur les sculptures de Chantal Thomas. Et ce sont les textes de Claude Faber. Nous allons écouter. Rien ne retient. Alors c'est Bertrand Cantat qui lit ce texte, c'est ça, Claude?
Oui, c'est ça. Ouais. Il y a plusieurs personnes, mais je vous en reparlerai après si tu
Oui,
veux. Mais en
voilà,
effet,
on
là,
l'écoute et
ce
tu nous le
texte-là
commentes
est
après.
lu en effet par Bertrand. Voilà.
Voilà, on écoute.
Chaud, je suis né, et d'une terre noire je suis fait. Mais puissé-je au prix d'une seule vie devenir ce lézard égaré sur son épaule? Ô vous, morts et vivants, ombres et couleurs, astres et désastres, faites de moi la fragilité et la faim. Donnez-moi la poussière et la paille. Faites de moi la nudité et la force accomplie. Laissez-moi traverser les jours comme ces places au soleil, et caresser les lumières d'une main et perdue entre mes mains. D'un corps chaud, je suis né, et d'un ciel noir, je me nourris. Mais puissé-je, ignorant que je suis, devenir cet homme qui ne craint ni les nuées d'oiseaux, ni la mort de ses baisers.
Voilà, donc c'était Rien ne retient, texte de Claude Faber.
En fait, il y en avait deux. Il y avait deux textes là. Il y avait
Un,
Rien ne
oui, et
retient,
d'un ventre chaud, oui. Oui.
dit par Bertrand Cantat, et l'autre d'un ventre chaud d'une
Chaud
terre
d'une
noire
terre noire
qui était
du
lu par moi.
Pays-Bas.
Voilà.
Oui. Voilà. Alors, c'est très intéressant cette publication, puisque ce que nous avons écouté est extrait d'un CD qui est joint à cette publication de Terre et de chair, nous sommes. Sculpture de Chantal Thomas, avec les musiques de Marc Sens, et c'est édité chez nous, ici à Toulouse Métropole, par l'usine, qui est le Centre national des arts de la rue et de l'espace public, hein, à Tournefeuille.
Oui, c'est ça. En fait, c'est un travail qui a été. Comment expliquer les choses? En fait, c'est une rencontre au départ. Je rencontre Chantal Thomas que je ne connaissais pas. Et en fait, je rencontre ses œuvres, véritablement sa sculpture, en me disant que si je savais sculpter, j'aimerais faire qu'elle fait, en fait. Elle présente toute une série de personnages qui sont vraiment. Tout dans l'émotion, dans l'introspection. Véritablement, c'est des personnages qui inspirent énormément à chaque fois de sensibilité, d'émotion. Donc on se rencontre et on part sur l'idée, en effet, d'associer un moment la sculpture et des mots. Et puis, petit à petit, le projet évolue et se joint à nous mon pote Marc Sens, qui est un guitariste, hein, qui travaille sur des projets solo, qui travaille aussi avec d'autres artistes comme Christophe Miossec, etc. Bon, un monsieur très expérimenté. Et on s'est retrouvé, en fait, on a été accueillis à l'usine, à Tournefeuille, en résidence, comme on dit, pendant 8 jours, où là, cette fois, on a vraiment tout finalisé, c'est-à-dire à la fois la sculpture, les textes, les musiques ont été enregistrées. Alors, on a eu le plaisir de présenter en avant-première à l'usine, à Tournefeuille, cette exposition. Alors, c'est une exposition très particulière, hein. Les sculptures de Chantal sont enfermées dans des colonnes de bois et il faut regarder à travers les lamelles pour apercevoir les sculptures qui sont à l'intérieur. Les personnages sont comme enfermés et le visiteur dispose de points d'écoute à quelques mètres de chaque colonne de bois pour écouter, en effet, donc mes textes qui ont donc été lus. Alors certains textes on l'a entendu, il y en a un ou deux qui ont été lus par donc Bertrand Cantat, d'autres par des comédiens du Conservatoire d'art dramatique de Perpignan, puis par des illustres inconnus aussi, des amis, des jeunes de tout âge, etc. Et donc cette expo a été présentée à l'usine, et puis surtout, elle a été exposée pendant 6 mois. Elle a été l'exposition de l'hiver dernier du mémorial de Rivesaltes, qui a eu l'extrême gentillesse d'accueillir notre exposition pendant 6 mois. Donc les gens qui venaient dans ce lieu somptueux qu'est le mémorial de Rivesaltes avaient en avant-première, enfin en première partie du moins de la visite, la possibilité de découvrir notre exposition. Voilà. Et donc en effet, on a fait le livret et compte tenu de la qualité musicale du travail de Marc, on a décidé d'associer au livret des textes les enregistrements. Il y a, je ne sais plus combien, il y a 9 ou 10 petits morceaux qui sont, voilà, qui sont disponibles avec les textes.
Est-ce que cette exposition va continuer à se promener un petit peu?
Pour l'instant, très franchement, il n'y a pas d'autres projets. Rien n'est prévu pour l'instant. Ce n'est pas du tout du domaine de l'impossible, mais là aujourd'hui, pour l'instant, rien n'est programmé.
En tout cas, il y a une très belle publication. Donc, de terre et de chair, nous sommes. Cette publication, est-ce qu'on peut se la procurer
Alors en fait aujourd'hui, en fait elle était en vente, elle est toujours en vente je pense au mémorial de Rivesaltes. Sinon pour dire les choses très 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 concrètement, il suffit de m'écrire en
D'accord.
messagerie privée sur Facebook et
D'accord.
je peux envoyer ce que je fais régulièrement parce qu'il y a souvent des gens qui me la demandent. Donc voilà.
D'accord. Donc nous mettrons les coordonnées de Claude Faber sur le compte rendu de notre émission qui sera sur le site lespoètes.site. Voilà. Nous allons continuer, si tu le veux bien, par écouter un autre extrait. Donc de terre et de chair, c'est l'extrait Je suis.
Je suis encore assoiffé. Je suis l'épuisement et le doute. Je suis le premier geste. Je suis la
la douleur, je suis la couleur. Je suis la source, la rive et le souffle. Je suis l'herbe couchée. Je suis une forêt sans fin. Je suis un horizon de soie. Je suis la racine et la cendre. Je suis la falaise qui se dresse. Je suis la rivière qui se courbe. Je suis l'homme qui s'écrit. Je suis la femme qui dit. Je suis le visage et ses reflets. Je suis des reflets sur le visage. Je suis le visage sans visage. Je suis le corps délié. Je suis la voix du sang. Je suis un toit en flamme. Je suis un mur.
Je suis ce que je peux. Je suis le mort.
voix. Je suis une lande sans nom. Je suis l'agonie du ciel. Je suis dans ses yeux. Je suis. Et pourtant je suis.
Voilà, c'était très beau texte. Hein. Et Claude, je me dis qu'en définitive, ce texte, même sans les sculptures, bien sûr, de Chantal Thomas, est un texte qui a sa propre personnalité.
Oui, je ne sais pas, certainement. Ce qui est certain, c'est qu'en plus... Christophe lui donne un oui. Corps à ce texte-là. En fait, pour tout vous dire, quand j'avais écrit ce texte-là, donc je l'ai écrit, mais véritablement d'un seul jet, d'une traite. Et je crois me souvenir, j'ai quasiment terminé, épuisé hein, et en larmes. Oui. Je ne sais pas pourquoi. C'est un texte qui m'a vraiment demandé beaucoup, en expression vraiment d'émotion. Et quand Christophe est tombé dessus, à la base, je pensais que dans l'enregistrement on allait croiser les voix, plusieurs personnes feraient ça. Et en fait, Christophe Costier, qui est donc comédien, qui est le responsable des cours d'art dramatique du Conservatoire de Perpignan, il a pris le texte à bras le corps, il a foncé tête baissée, il a fait un seul enregistrement, c'est celui que vous venez d'entendre. Et parallèlement à cela, sans avoir entendu la voix de Christophe, mais en ayant lu le texte, Marc Sens avait pris sa guitare et... De la même façon que moi j'ai écrit d'un seul jet, de la même façon que Christophe a lu d'une seule traite, et c'est la première prise que l'on a enregistrée, Marc a déroulé ses notes et ses mélodies à la guitare. Et voilà, et c'est ce qui doit donner, je pense, il y a une forme d'authenticité ou de spontanéité. Enfin, du moins dans nos trois démarches, ça c'était sûr, et les trois démarches se sont retrouvées. Et voilà ce que ça donne. Donc tant mieux. Tant mieux pour le résultat.
Oui. Alors ça c'est formidable parce qu'on voit combien les trois arts là sont réunis et se confondent dans une même œuvre d'une façon parfaite, quoi.
Ben, je crois beaucoup, c'est ce que je découvre de plus en plus avec le temps. On va dire que quand il y a, je sais pas, 25, 30 ans, j'ai commencé à écrire. J'écrivais seul, c'est-à-dire que j'écrivais pour être lu, certes, mais j'écrivais avec l'espoir d'être édité, l'espoir surtout d'être lu, le sentiment de plus ou moins bien faire, mais peu importe, voilà, j'étais dans mon exercice d'auteur, on va dire, en toute modestie. Et puis, je me suis rendu compte au fil du temps que j'avais de plus en plus envie et besoin, tout en gardant... mon chemin solitaire d'auteur, de temps en temps, de croiser mes mots. Alors de les croiser avec des musiciens, de les croiser avec des comédiens, de les croiser avec des photographes, de les croiser avec cette dame qui fait de la sculpture. Vous avez cité tout à l'heure en souriant, mais c'est vrai, il y a une amie qui est tatoueuse, qui a illustré la couverture d'ailleurs d'un des recueils édités chez Encre Vive, La mer du vent, et puis comme elle a flashé sur un des verres, elle a un jour proposé à quelqu'un qui voulait un tatouage d'associer un personnage, un très beau marin, avec un verre tiré donc d'un recueil, donc cette tatoueuse qui s'appelle Camille Spira. Et le fait de croiser comme ça des sensibilités, des expressions artistiques, ça me plaît beaucoup. Ce qui me plaît, c'est à la fois de croiser, parce que comme ça j'ai l'impression qu'on est vraiment dans un échange, et que mes mots ne sont plus que mes mots, c'est les mots aussi de tout le monde, et c'est ce qui me plaît aussi dans la lecture. J'aime énormément, quand la calligraphe Françoise Michaud m'a appelé pour me demander de faire de la calligraphie à partir de mes textes, je lui ai dit un immense oui, parce que j'étais ravi que justement il y ait ce partage, cet échange, en lui disant, mais mes mots sont les vôtres aussi maintenant, allez-y, faites-en ce que vous voulez. J'aime beaucoup cette sensation que Tout d'un coup, on est à la base d'une matière et puis cette matière, elle nous échappe parce qu'elle appartient à d'autres et chacun en fait ce qu'il veut. Ben voilà, bon, voilà, j'aime bien cette vie des mots, en fait, et ces croisements.
Alors, tu parlais tout à l'heure de ce recueil, la mer du vent. Ce recueil qui s'insérerait très bien dans la collection que dirige Daniel Forgeras, parce que ce sont des textes très courts, vraiment d'une intensité, souvent qui se rapproche un peu de l'aphorisme, hein, et que tu as édité chez Encre Vive. Est-ce que je peux te demander de nous lire certains de ces textes de La mer du vent ?
Oui, avec plaisir, merci. Je vais les prendre au hasard, hein, parce qu'en effet, ça a été réellement écrit, c'est du vécu, c'est-à-dire que, comme tu disais, je vis à Port-Van aujourd'hui, après avoir passé de longues années à Toulouse, donc c'est vraiment des errances et des moments de marche et de solitude face au large. Et il m'est venu, voilà, ces quelques mots. Au bout de la jetée, face à la mer, comme au bord d'un visage. La roche fendue, dernier souffle du hasard. C'est ici que le vent devient. C'est quoi là-bas ? La promesse du vent. Je ne distingue ni voile, ni regard, ni larmes, ni gestes, juste l'enfance. Il est temps d'écrire. Lettre d'amour, un testament, page blanche, infiniment blanche. Je ferme les yeux, je ne suis que souffle, rien d'autre. Un simple souffle perdu dans l'éblouissement. L'horizon ne dit mot, il écoute la douleur. Un peu d'eau sur le visage et l'absence récite ce poème. La brise se courbe, la nuit s'effondre, un chien aboie, je crois le comprendre. Au bout de la jetée, là où plus rien ne se prononce, une vague évite mon visage. L'horizon réclame son dû, un goéland se sacrifie. Un nuage bascule, et c'est le ciel qui m'enlace. La mer se tait. Elle ignore tout de nous. Je ne prends aucune note. Mes yeux me l'interdisent. Je pouvais me hisser au plus haut de moi, m'approcher du bord, risquer la chute, étirer mes bras, ouvrir mon corps et me déchirer la poitrine, délivrer ce que je cherchais à tâtons, libérer ce que je cherchais du bout des lèvres. Et puis peut-être un dernier. Une ébauche de vie. Comme de l'écume, en guise d'ombre, la mer du vent, le vent des mots, les mots de mer. Peut-être va-t-il pleuvoir, peut-être un corps va-t-il échouer. Voilà.
Merci. Alors, Claude Faber, on voit que tu as écrit des ouvrages historiques, tu as écrit du théâtre, tu as écrit de la poésie. Dans ces trois genres, puisque c'est ainsi qu'il faut les appeler, est-ce que la poésie a une place différente ou prépondérante ?
Ah oui, ça je ne peux pas le nier. Tant dans mes choix d'écriture que dans mes choix de lecture même si je suis un grand lecteur de romans, d'essais, je peux très bien lire, je suis un très très grand amateur de tous les romans de Murakami ou de Jim Harrison, de Sam Shepard, mais je reste profondément attiré par la poésie. Et c'est vrai que en termes d'écriture, c'est mon refuge, c'est mes premiers amours et c'est mes amours fidèles. C'est-à-dire que il y a ce champ véritablement qu'offre la poésie, ce champ des possibles, cette version des faits, comme dirait ou disait mon vieux complice Armand Gatti, qui me séduit considérablement, c'est-à-dire que, oui, plus j'avance et plus je me dis que je ne peux pas me passer ni de l'écriture tend vers la poésie, ni de la lecture de la poésie. Je trouve que, et d'ailleurs, avec le temps même, je redécouvre des auteurs qui me plaisaient considérablement quand j'avais 20 ans. Je pense par exemple à Albert Camus. Je le relis aujourd'hui avec gourmandise et de passion folle. Et qu'est-ce que je découvre encore plus? C'est toute la dimension poétique de ces textes. Dans ces carnets, par exemple, numéro 1, c'est ce que j'aime le plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette façon de dire la vie, cette façon d'exprimer les émotions, cette façon de dire ce que nous sommes, nous, les femmes et les hommes, et ce que nous avons en nous, cette façon d'exprimer les choses de l'intérieur avec une authenticité, mais en même temps une dimension, une perspective qui fait que, voilà, on dit les choses avec encore plus d'émotion et encore plus de profondeur. Alors moi, je n'ai pas la prétention d'être au niveau des poètes que j'aime lire, hein, évidemment, mais c'est une pratique, en effet, qui me porte, qui me plaît, c'est incontestable. Je continuerai toujours, même si j'en ai plein qui ne sont pas édités, qui sont tombés dans mes carnets, etc., je continuerai toujours d'écrire de la poésie. C'est indéniable.
Il y a une phrase de Roger Caillois, enfin deux phrases exactement, dans son livre « Approche de la poésie » qui dit ceci: « Je n'ai pas tenu la poésie pour un genre littéraire parmi d'autres, débordant peut-être la littérature par plusieurs caractères, qui d'ailleurs me paraissaient discutables. Je la considérais, donc la poésie, comme une activité, pour ainsi dire, plus grave. » Est-ce que tu es d'accord avec cette pensée de Roger Caillois?
Oui, c'est vrai. Oui, je suis d'accord. Il y a une forme, en effet, c'est autre chose. La poésie, de toute façon, pour moi, c'est autre chose. Et c'est vrai que c'est un exercice. Moi, je m'intéresse parallèlement à cela, à des notions qui pourraient sembler loin de la poésie, mais que ce soit même les sciences de neurologie, la physique quantique, l'anarchie, tu en parlais tout à l'heure, etc. Oui. C'est-à-dire dans des domaines qui n'ont rien à voir, mais qui pour moi sont des domaines d'exploration justement de tous les champs des possibles et du possible. Et c'est ça qui me plaît profondément dans la poésie. C'est ce champ à part de la littérature, ce champ qui est parallèle. D'ailleurs, tout à l'heure, je citais des auteurs, même des auteurs américains, Jim Harrison ou Sam Shepard. Je crois que, alors, je ne veux pas dire ça pour Jim Harrison, parce que les romans sont somptueux, mais sa poésie est somptueuse. Et la poésie de Sam Shepard est somptueuse aussi. C'est comme Raymond Carver, c'est tous ces auteurs-là. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on voit bien qu'il y a des chemins de traverse qui sont empruntés par les uns et par les autres, parce que là, tout d'un coup, on explore encore différemment, j'ai envie de dire, la matière humaine. On approche différemment. Et il y a à la fois, moi j'aime la poésie quand elle a une forme de légèreté, j'ai envie de dire, pas de superficialité, je dis bien de légèreté, mais aussi de forme de gravité. C'est ce que je retrouve d'ailleurs très souvent dans les textes d'Albert Camus, qui nous porte vraiment autant vers la lucidité, qu'une forme de joie, un peu au sens de Spinoza, mais vers la lucidité, sans pour autant qu'on tourne vers la superficialité. Et ça, oui, il y a une forme de gravité dans la poésie qui est un champ à part, qui est quelque chose, voilà, et que moi je trouve, j'adore essayer de la faire découvrir à toutes les générations, à tous les âges. On a tellement réduit la poésie à ce que l'on apprenait à l'école, ou alors un truc d'un télo, un truc on comprend pas, on voit pas ce que ça veut dire et tout. Mais non, j'ai cette phrase de Serge Peille en tête. Serge disait la poésie, c'est ce qui rend la vie plus belle que la vie. Ouais, c'est aussi ça. Il y a une forme aussi de lumière, vous voyez, de joie, parce qu'il y a la lucidité et il y a l'émotion.
Alors, ce que tu as dit tout à l'heure, la poésie, tu disais beaucoup, tu la rapprochais aussi de la philosophie, de la science quantique, oui, etc. C'est exactement les théories de Kenneth White dans sa géopoétique, hein, ceux qui cherchent dans la géopoétique. Et il y a un livre d'ailleurs qui a été réédité par les éditions Le Mot et le Verbe, c'est en 2018, c'est Le Plateau de l'Albatros. Il parle de tout ça et il rejoint exactement ce que tu viens de dire. à propos
C'est intéressant,
de son travail géopoétique. Il dit le travail
oui.
géopoétique viserait à explorer les chemins de ce rapport sensible et intelligent à la terre, amenant à la longue peut-être une culture au sens fort du mot. Voilà.
Oui, tout à fait, mais là, je me reconnais mille fois là-dedans, en effet, bien évidemment, parce que il y a aussi, pour moi vraiment, la poésie, elle est porteuse aussi de la non seulement de la libre pensée, mais aussi de l'esprit critique. C'est-à-dire qu'elle ouvre tellement de champs, elle nous conduit tellement à travers des mots, à travers les vers, à travers même la longueur des textes, mais elle nous conduit tellement sur des champs où on ne s'attendait peut-être pas à aller, pour en fait aller vers certaines émotions ou décrire le monde. Peut-être que l'on ne pensait pas, à travers tout d'un coup, il y a des poèmes qui nous éclairent et on se dit « Ah mais oui, en fait, je me rends compte, ce poème-là me renvoie, je vois peut-être ce qu'a voulu dire l'auteur, mais ça me renvoie aussi à autre chose. » Donc, on est vraiment dans un champ exploratoire et c'est vrai que ça, c'est le propre du travail de Gatti il y a quelques années, lorsqu'il a découvert la physique quantique, qui s'est rendu compte en effet qu'il y avait des physiciens qui considéraient que le monde n'était pas défini simplement comme les déterministes l'affirmaient, c'est-à-dire le monde n'est pas simplement noir et blanc, il y a bien évidemment d'autres nuances. Je résume vraiment, et donc la physique quantique qui allait vers d'autres champs exploratoires, il s'est dit, mais au fait, c'est un petit peu la même démarche que les poètes. C'est un peu la même démarche que les poètes. Et en fait, oui, on est en effet, et d'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, moi j'ai des recueils de poésie que je me plais à lire et à relire, et je suis toujours étonné, mais je pense que ce n'est pas simplement une sensation, toujours étonné de les relire différemment. Et je trouve aujourd'hui, même si je suis très sensible, par exemple, à ce qu'écrit des auteurs comme Christian Bobin ou François Cheng aujourd'hui, qui ont du succès, etc. Même si je suis moins, je suis intéressé par la spiritualité, mais je ne suis pas croyant. Donc, je reconnais aussi dedans des références, parfois, surtout chez Christian Bobin, mais peu importe, les champs vraiment qui nous ouvrent qui nous amènent sont une richesse infinie. Et j'ai l'impression, même des textes les plus récents, de les lire et de les relire et de les redécouvrir. J'ai devant moi, tout en te parlant, Ostinato de Louis-René Desforêts.
Oui.
Il y a des extraits, il y a des choses dedans qui sont des lumières qui me parviennent à chaque fois de façon différente.
Oui.
Alors je ne suis pas forcément sûr de le lire comme l'auteur a voulu l'écrire. Mais peu importe.
Alors Claude, pour poursuivre cette pensée de Kenneth White, là, qu'il dit que, en définitive, les chemins de ce rapport sensible et intelligent ramènent à la Terre, et qui amène à la longue une culture, hein, au sens fort du mot, il me semble qu'on pourrait terminer par ce recueil qui a été édité donc, aux éditions Encre Vive l'année dernière, Nos reflets dans les arbres, où on va avoir effectivement ce rapport aussi à la terre, à l'arbre. Est-ce qu'on peut t'écouter là?
Oui, tout à fait. Alors moi, justement, dans la logique, je dirais, de la poésie, bon, ben, je m'intéresse beaucoup aussi au monde des arbres. Alors, c'est un petit peu à la mode en ce moment, hein, mais ça ne date pas d'aujourd'hui.
Oui.
Et c'est vrai que la promenade en forêt, le rapport aux arbres, la physiothérapie, comme on le dit aujourd'hui, hein, d'ailleurs, il y a un très beau livre qui s'appelle Le pouvoir bienfaisant des arbres d'un ami, Jean-Marie Desfossés. C'est vraiment, je le recommande à tous ceux que ça intéresse. Et c'est vrai que ben, j'ai eu envie à la fois de photographier et d'écrire. Et Michel Cosem a eu en effet la gentillesse d'accueillir aussi dans le recueil des photos.
Des photos.
Qui fait que voilà.
Et qui rendent bien, hein, qui rendent bien.
Voilà. Oui, c'est. Ouais.
On t'écoute, Claude.
Apprend-on à devenir un arbre comme on apprend à devenir soi-même? S'agit-il simplement de l'enlacer pour s'approcher de soi? Sur la pointe des pieds, comme par crainte d'effrayer une bougie en plein vent. Puis un jour, un arbre dépasse les arbres. Le temps enjambe le temps. Les pierres s'allègent. Le vide devient plein, et le plein, une promesse de lumière pour les nuits sans lune. Et si cette page était une forêt? Et si ces mots s'échappaient comme de grands oiseaux dans le ciel? Et si, entre chaque virgule, il y avait le bruit des pas? Et si, sur les feuilles au sol, il y avait des noms, des photos d'enfants, des adresses du passé, des promesses de lendemain, et de si grands oiseaux qui nous traverseraient de part et d'autre? Et s'ils remontaient notre corps comme à la saison des migrations, quand ils préfèrent les larmes de joie, perles de cendre? Je n'y vois que des passerelles de bois, des voiles de soie, des livres ouverts, des fenêtres sans mur, des cathédrales sans toit, des soleils sans ombre, des peaux sans cicatrices, des cœurs sans gouffre, des joies sans doute, des yeux sans larmes, des jours sans nuit, des vies sans mort. Ah, peut-être un petit dernier. J'ignore tout de la couleur et de la profondeur des racines, de celle des arbres et de celle des hommes. Je sais juste qu'un jour, certains parfums, certaines phrases, certains visages remontent à la surface, comme ces échos entremêlés dont on ignore l'origine, comme ces animaux apeurés qui surgissent au détour d'un destin à peine évoqué. L'arbre s'interroge et le visiteur s'agenouille, conscient de ne pas être à la hauteur. Voilà, c'est quelques exemples.
Merci beaucoup, Claude Faber. Nous rappelons le titre, Nos reflets dans les arbres, collection Encre blanche de Encre vive, à commander à Michel Cosem, 2 allées des Allobroges, 31 770 Colomiers. Le volume vaut 6,10 €, ainsi que Le temps des roseaux et La mer du vent sont à commander dans les mêmes conditions. Nous pourrons, si tu le veux bien, nous quitter sur deux pensées. La première, c'est celle d'un certain Alexander von Humboldt, qui a écrit un livre qui s'appelle « Cosmos » et qui dit ceci. « La poésie, la science, la philosophie et l'histoire ne sont pas fondamentalement séparées les unes des autres. Elles forment un tout dans l'esprit de l'homme qui atteint un état d'unité. »
Voilà.
Voilà. Et puis peut-être cette phrase de Rimbaud. « Si j'ai du goût, ce n'est guère que pour la terre et les pierres. » Merci beaucoup, Claude Faber.
C'est moi. Merci
et
beaucoup.
Donc, merci, bon vent là-bas à pourvendre dans ce si beau pays. Et à bientôt pour, évidemment, dès que tu as une nouvelle édition de quoi que ce soit, nous serons heureux de nous en entretenir avec toi.
Eh bien, merci pour ton accueil. Merci de m'avoir accueilli si chaleureusement. Merci beaucoup.
Merci, Claude.
Merci à tous.
Ainsi s'achèvent les poètes, Claude Bretin et moi-même. Nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine. Adicias.
Ce sont de drôles de